Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église concerne notamment le Cap-Vert, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira de nouveau en Tanzanie, en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
L'actualité de l'Église nous conduit d'abord au Cap-Vert. Monseigneur Hildo Augusto dos Santos López Fortes, évêque de Mindelo, présente les 3 années de préparation en vue du 20e anniversaire de son diocèse. Il parle aussi de la possibilité d'un congrès eucharistique et d'un soutien aux jeunes du diocèse dans le programme triennal, un programme présenté à travers une lettre pastorale qui indique la feuille de route et qui confirme les forces de l'activité locale et l'ouverture à une activité missionnaire plus incisive, car, selon le prélat, la crise inattendue provoquée par la pandémie doit devenir une occasion d'annoncer l'Évangile. Plus que jamais, nous avons besoin de quelqu'un qui nous donne des raisons d'espérer pour vivre et aller de l'avant. Quant à l'engagement à soutenir les nouvelles générations, Mgr Fortes espère une participation massive aux Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne. La phase de préparation du 20e anniversaire comprend également la consolidation de l'école chrétienne de formation pour les laïcs, la promotion de certaines dynamiques d'évangélisation et d'action pastorale, la commission pour la protection des mineurs, la commission pour les migrants et les réfugiés, la mise en place du conseil presbytéral, la création des vicariats de périphérie, la place également à la plateforme numérique du secrétariat diocésain pour la catéchèse, la construction du séminaire diocésain ainsi que d'autres infrastructures importantes. Nous voulons célébrer tout cela dans un esprit de gratitude et regarder vers l'avenir que Dieu nous offre avec une grande espérance, souligne Mgr Fortes, anticipant la devise qui accompagnera les programmes triennaux, à savoir Église, maison et école de communion, vivante et missionnaire. Mgr Fortes rappelle également que la finalité de la spiritualité de communion a marqué les projets pastoraux du diocèse et signifie en premier lieu avoir le regard tourné vers Dieu Trinité, un mystère d'amour qui nous habite et qui reflète sur les visages des frères et sœurs qui nous entourent. Selon l'évêque de Mindelo, à une époque comme la nôtre, affligée par tant de peur, d'insécurité et de souffrance, les mots doivent se traduire en gestes de solidarité et d'amour. En Tanzanie, l'archevêque de Dar es Salaam invite tous les prêtres à se faire vacciner contre la COVID-19. Chaque prêtre doit être vacciné. Arrêtez de plaisanter avec la COVID-19. Il s'agit d'une maladie qui nous touche profondément car elle prend la vie de nos proches. Soyons sérieux à ce sujet, déclare Mgr Jude Tadeus Ruwaichi, archevêque de Dar es Salaam, en ordonnant à tous les prêtres de l'archidiocèse de recevoir le vaccin contre la pandémie. L'archevêque Ruwaichi l'a annoncé lors de la cérémonie d'enterrement de l'ancien directeur de Tumaini Media, le père Paul Aoulé, au pèlerinage de Pougou dans l'archidiocèse de Dar es Salaam. L'archevêque a réprimandé ceux qui minimisent la COVID-19, rappelant qu'il s'agit d'un virus dangereux et d'une tragédie qui touche des êtres humains. Il a également mis en garde contre ceux qui s'opposent à la vaccination avec des arguments peu crédibles. Nous avons prié en demandant à Dieu de nous apporter le vaccin contre le coronavirus et maintenant il a été trouvé et pourtant nous nous y opposons. Que voulons-nous que Dieu fasse pour nous? La volonté de Dieu est que nous vivions. Nous ignorons les bruits de ceux qui s'opposent au vaccin. Faites-vous vacciner et continuez à demander à Dieu de nous sauver de cette maladie, a-t-il souligné. Mgr Ruwaichi a exhorté la population à suivre les conseils des agents de santé en continuant à se protéger contre le virus. au début de la messe de suffrage pour l'âme du défunt père Paul Aboulé à la paroisse Saint-Peter Osterbey de Dar es Salaam, le vice-président de la République unie de Tanzanie, le docteur Philippe Mpango, a exhorté les fidèles à faire tout leur possible pour protéger les prêtres et les religieuses de l'infection par le coronavirus. Transmettant les salutations de la présidente de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, le docteur Mpango a exprimé combien le gouvernement est attristé par la mort du père Aboulé, disant qu'il était un bon et humble prêtre qui prêchait la paix et l'éthique dans la société. En Afrique du Sud, Mgr Sitembele Anton Sipuka, évêque de Mtata, indique que l'économie et l'éducation inclusive sont des antidotes à la violence. Après les violences qui ont éclaté en juillet, nous avons suggéré au gouvernement de prendre des mesures de réconciliation en demandant à ceux qui ont volé et pillé des magasins de rapporter les biens volés dans un bref délai pour obtenir une amnistie. Le gouvernement a donné le feu vert et certaines personnes réagissent. C'est ce qu'a déclaré Mgr Sipuka, évêque de Umtata et président de la Conférence épiscopale catholique d'Afrique australe qui regroupe les évêques d'Afrique du Sud, du Botswana et des Swatini dans un point de presse. Plus de 300 personnes sont mortes et environ 3000 magasins ont été pillés lors des manifestations et des violences qui ont éclaté en juillet, déclenchées par l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma, mais aussi par la colère suscitée par la pauvreté et les inégalités. La situation est redevenue calme, mais nous nous demandons maintenant comment il a été possible que des milliers de citoyens prennent d'assaut les magasins, les locaux, les maisons sans qu'aucune intervention immédiate ne les arrête. Après des jours d'affrontements qui ont laissé des traces de pillage et de dévastation dans plusieurs villes, l'Afrique du Sud assume les profondes divisions qui la traversent, notamment après l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma, accusé de corruption durant son mandat et emprisonné le 7 juillet. Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire, où notre correspondant local nous parle de l'ordination sacerdotale de 9 diacres issus des familles religieuses de la Divine Providence, des pères stigmatins et de l'ordre des frères mineurs.
C'était un samedi particulièrement tout joyeux pour ces familles religieuses de la Divine Providence, des pères stigmatins et de l'ordre des frères mineurs qui viennent d'accueillir de nouveaux membres en leur sein. Devant leurs parents, amis et connaissances confrères et supérieurs, Monseigneur Raymond Awa, dans son homélie, a appelé ses nouveaux amis du Christ à l'amour du service pour Dieu et pour les hommes et surtout à bien le faire. Un aspect sur lequel l'évêque de Grand Bassam a mis l'accent, c'est bien le sens de la responsabilité dans l'Église.
Mes chers ordinants, travaillez de vos mains. Cela ne va jamais vous déshonorer. Au contraire, cela va vous rapprocher du fils du charpentier que vous suivez. Face à Jésus, qui je suppose est le maître, votre maître, voulez-vous devenir maître ou serviteur? À travers le sacrement que vous allez recevoir, Jésus vous fait confiance et vous confie totalement son Église, le peuple de Dieu. Cette Église-là, elle sera ce que vous en ferez.
Étaient présents à cette messe d'ordination de nombreux prêtres, religieux des congrégations auxquelles appartiennent les élus du jour. Frère Virgile Francis Akpévi, supérieur provincial des franciscains en Côte d'Ivoire, au nom de ses pères, a traduit, lui, toute sa gratitude à Monseigneur Raymond Awa et aux parents des nouveaux prêtres pour leur sollicitude. Il en a profité pour les inviter à être de bons missionnaires. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, 50 ans de sacerdoce de M. l'abbé Bounia du diocèse du Diofa, notre correspondant local nous en parle.
50 ans au service du Seigneur, 50 ans d'évangélisation dans la joie. Monsieur l'abbé Barthélémy Bignat est venu le chanter le samedi 28 août dans l'église paroissiale Saint-Alphonse de Kinshasa-Matete, là où le prêtre du diocèse d'Idiofa a commencé son ministère sacerdotal. Ordonné prêtre le 21 août 1971 à Mangaï 2 par Monseigneur Eugène Biletti, Barthélémy Bignat avait été adoubé dès 1973 par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Joseph Albert Malula, qui le nomma secrétaire chancelier et curé doyen de Saint-Alphonse Matete. Un prêtre de Kinshasa, M. l'abbé Mathieu Moussoua, a reconnu le prêtre jubilaire qu'il a inspiré lui-même.
Il était toujours enthousiaste.
Barthélemy Bigna a inspiré comme recteur de 1978 à 1981 bien d'autres jeunes au petit séminaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de là-bas, dans le diocèse d'Idiofa. M. l'abbé Firmin Soki en a témoigné.
Nous sommes fiers de vous.
L'évêque d'Idiofa, Mgr José Moko, a félicité son prêtre jubilaire au nom de tous les évêques de l'abbé Bigna dans les diocèses de Kinshasa, Idiofa, Maroua Mokolo au Cameroun et Limoges en France. Son jubilé d'or sacerdotal, M. l'abbé Barthélemy Bigna l'a aussi chanté. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le chef du principal parti d'opposition tanzanien comparaissait mardi devant la haute cour à Dar es Salaam pour faire face à des accusations de terrorisme dans une affaire qualifiée de politique par son parti visant à écraser la dissidence. Le président du parti Chadema, Freeman Mbowe, et ses partisans accusent la police de l'avoir torturé en garde à vue pour le forcer à faire une déclaration lors du procès qui s'est ouvert sous haute sécurité. La plupart des journalistes étant bannis de la salle d'audience par la police. Freeman Mbowe est en détention depuis le 21 juillet, date à laquelle il a été arrêté avec d'autres hauts responsables du parti Chadema, après avoir appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. L'homme de 59 ans est accusé de financement du terrorisme et complot terroriste. La défense a déclaré avoir déposé une requête demandant l'abandon des charges et l'annulation du procès accusant implicitement la présidente Samia Suluhu Hassan de s'être mêlée de l'affaire. Une personne a été tuée et sept autres blessées par des hommes armés lundi soir à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette fusillade est la plus spectaculaire depuis environ 2 mois dans la ville de Goma, réputée pour des meurtres ciblés et des vols à main armée. Depuis mai, la ville, comme l'ensemble de la province du Nord Kivu, est celle voisine de l'Ituri et sous état de siège, mesure exceptionnelle prise par les autorités pour lutter contre les groupes armés qui écument la région. Le président Félix Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. Dans le même registre, Dieudonné Malangai, président intérimaire et secrétaire de la société civile de la chefferie de Walese au Vonkutu, a annoncé mardi l'enlèvement de 11 enfants, dont 5 filles âgées de 9 à 17 ans par des présumés rebelles des forces démocratiques alliées dimanche soir dans un village d'Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire, la diffusion par une chaîne de télévision ivoirienne d'une émission censée dénoncer le viol et au cours de laquelle un homme présenté comme un ex-violeur a raconté comment il agressait ses victimes a soulevé mardi l'indignation dans le pays. Dans cette émission diffusée lundi à 1 heure de grande écoute par la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, un homme présenté par l'animateur comme un ancien violeur est invité à expliquer comment il violait ses victimes. Lancé peu après la diffusion de l'émission, une pétition signée mardi à la mi-journée par 30 000 personnes adressée à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, au ministère de la Communication et de la Jeunesse, demande que l'émission soit carrément annulée et l'équipe qui la présente avec à sa tête Yves Dembella soit sanctionnée. À l'heure de la lutte contre les violences faites aux femmes, le texte déplore que la télévision, dont le rôle est d'éduquer, se fasse complice en donnant la parole à un violeur. La direction de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI a présenté mardi ses plus sincères excuses. Elle a exprimé dans un communiqué son attachement au respect des droits humains et en particulier à ceux des femmes. Nous assumons humblement la pleine responsabilité de cette faute grave et regrettable dont nous tirerons toute conséquence. Notons que dans une enquête réalisée auprès de 5556 personnes publiée en juin, l'ONG ivoirienne citoyenne pour la promotion et la défense des droits des enfants, femmes et minorités a recensé en 2 ans, dans la seule ville d'Abidjan, 416 féminicides, 2000 cas de violences faites aux femmes, dont 1290 cas de mariage de filles de moins de 18 ans et 1221 viols.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Une manifestation antigouvernementale prévue lundi au Soudan du Sud à l'appel d'une coalition de groupes de la société civile ne s'est finalement pas tenue après le déploiement en masse des forces de sécurité dans les rues de la capitale Djouba. Cette journée de contestation était prévue le même jour que la session inaugurale du Parlement dit reconstitué, une des dispositions clés de l'accord de paix qui a mis fin en 2018 à 5 ans d'une sanglante guerre civile ayant fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés. Plus de 40 organisations tunisiennes de défense des droits humains ont affirmé lundi que la Tunisie a livré Slimane Bouaf, un réfugié politique algérien, aux autorités de son pays, accusant Tunis de violer ses engagements internationaux. M. Bouaf, 54 ans, est un militant politique algérien condamné en 2016 à 5 ans de prison dans son pays pour insulte à l'islam. Il milite aussi au sein du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, une organisation indépendantiste classée terroriste par les autorités algériennes. Dans un communiqué commun, plus de 40 ONG, dont la Ligue tunisienne des droits de l'homme, a exprimé leur indignation devant le dangereux précédent créé par l'État tunisien en remettant un réfugié bénéficiant de la protection internationale aux autorités de son pays qui le poursuivent pour ses prises de position politique. Les ONG exigent des clarifications des autorités sur la disparition dans des circonstances mystérieuses du militant politique algérien Slimane Bouaf.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur l'économie avec Françoise Niamien.
Notre magazine sur l'économie nous conduit en République démocratique du Congo. Ce pays veut exporter ses produits agricoles vers la Chine, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo entend tirer profit des partenariats commerciaux internationaux qu'elle a conclus afin de diversifier son économie en exportant ses produits agricoles et agroalimentaires vers les marchés africains, chinois, européens et américains. Jusqu'à ce jour, le pays importe plus qu'elle exporte vers les marchés de ses partenaires africains, européens, chinois et américains, qui inonde à des degrés divers le marché congolais en produits manufacturés environ 70% et en produits vivriers de grande consommation soit 25%, a estimé Jean-Lucien Boussa, ministre congolais du commerce extérieur. Plus de 1,5 milliard de dollars américains sont dépensés dans les importations des produits alimentaires et le pays importe annuellement pour près de 500 millions de dollars de produits pharmaceutiques. Le budget de la République démocratique du Congo est de 7 milliards de dollars en 2021. Pour inverser la tendance et augmenter la part des exportations des produits agricoles comme le café, le cacao, le maïs, le manioc, le gouvernement congolais a décidé de renforcer les connexions, aussi que commerciaux régionaux et internationaux. Le pays a ciblé les marchés de la zone de libre-échange continentale africaine, les États-Unis dans le cadre de l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, l'Europe avec les différents accords Afrique-Caraïbes-Pacifique, Union européenne et la Chine. Actuellement, le Congo se présente comme un marché annexe au sein duquel les opérateurs économiques des pays limitrophes écoulent leurs produits dans le cadre d'un commerce transfrontalier, a déploré Mike Tambwe Lubemba, directeur général de l'Agence nationale de la promotion des exportations. L'économie congolaise est tractée essentiellement par les secteurs miniers et pétroliers qui représentent 96% des exportations des produits primaires selon des chiffres du ministère du Commerce extérieur. Les échanges transfrontaliers sont aujourd'hui largement connectés aux marchés internationaux et à leur dynamique. Le commerce d'opportunités associé aux importations du marché mondial tient certes encore une place de choix dans ces échanges, mais il n'en demeure pas moins que le commerce de complémentarité associé aux productions locales semble gagner en dynamisme et compétitivité. D'une part, le commerce transfrontalier, considéré dans ses diverses composantes non enregistrées, fraude illicite, semble caractérisé par une internalisation croissante. D'autre part, le développement d'activités hors du territoire d'État s'élargit à des acteurs plus nombreux. Dans le même temps, si les rentes frontalières restent sous le contrôle d'un petit nombre d'hommes d'affaires, leur distribution tend à s'élargir. Dans cette évolution, les espaces frontaliers perdent de leur spécificité et la question du douanier contrebandier ne s'applique plus seulement à la frontière douanière, mais aux diverses frontières dans l'économie qui délimitent le territoire d'État. La question n'est pas nécessairement celle du commerce transfrontalier prédateur, mais celle de la négociation de nouvelles règles du jeu permettant de redéfinir le rôle de la fiscalité dans l'économie. Cette tendance à la globalisation implique que le débat sur l'intégration régionale, déjà lié à la question de l'insertion du pays dans les marchés internationaux, sont davantage reliés au débat sur la décentralisation et sur la fiscalité. La République démocratique du Congo a une superficie de 2 267 600 km². Elle est dotée d'une biodiversité remarquable, de ressources minérales et forestières très riches et de sols fertiles, conditions favorables se prêtant à l'agriculture.
Camille Mukoso présente la rubrique sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux.
Commençons notre rubrique consacrée à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux par la signature de la Déclaration commune des chefs religieux contre l'esclavage moderne par 14 dirigeants des 4 pays africains à Accra au Ghana le 11 août dernier. Organisée par Global Freedom Network, la branche religieuse du groupe international de défense des droits de l'homme Walk Free, la déclaration a été signée par les chefs religieux du Ghana, de la République démocratique du Congo, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la 8e signature depuis 2014, lorsque le pape François et les grands ayatollahs Mohamed Taki al-Adad ont joint d'autres dirigeants des nombreuses grandes religions du monde pour déclarer que l'esclavage moderne doit être éradiqué. Ces chefs religieux d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ont déclaré conjointement qu'ils utiliseraient leur position dans la société pour mettre fin à l'esclavage et au trafic d'êtres humains qui aurait augmenté pendant la pandémie de COVID-19, les trafiquants s'attaquant aux personnes vulnérables. Le père Lazarus Anonde, secrétaire général de la Conférence des évêques du Ghana, qui a participé à la cérémonie des signatures de la Déclaration commune des chefs religieux contre l'esclavage moderne, a décrit ces vices comme un abus de personnes pour des raisons de profit. La traite des êtres humains est un crime particulièrement odieux, c'est parce qu'il implique l'exploitation et la maltraitance des êtres humains à des fins lucratives, a précisé le père Lazarius. L'esclavage moderne est un terme générique qui inclut la traite des êtres humains, la servitude domestique, les pires formes de travail des enfants et les mariage forcé des enfants. Cheikh Amayaro Chabou a pour sa part souligné que toutes les religions dénonçaient ces crimes. En tant que chef religieux, vous occupez une position très spéciale dans la société ghanéenne. Vous pouvez voir des changements chez les gens qui seraient ignorés par d'autres. Vous êtes donc dans une position unique pour identifier les victimes et les mettre en contact avec les professionnels pour les aider à échapper aux mains de leurs bourreaux, a déclaré Cheikh Chabou. Grace Forrest, coordonnatrice de Walk Free, qui s'est trouvée à Accra, la capitale du Ghana, pour la signature, a déclaré que le chef religieux sont dans une position unique pour observer et traiter les cas d'esclavage moderne dans leur communauté. Cela est particulièrement vrai en Afrique, où la foi est ancrée dans les communautés et où l'incidence de l'esclavage moderne est élevée, a-t-elle ajouté. Le cardinal centrafricain Dieudonné Zapalainga et son compatriote l'imam Abdoulaye Ousselengwe seront en Suisse début septembre 2021. Les deux personnalités qui militent ensemble pour la paix et la fraternité dans leur pays effectueront les déplacements dans les cadres de la sortie du film suisse Siriri. Le cardinal et l'imam conjugueront leur venue en Suisse pour le film avec la 48e réunion du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 13 septembre au 8 octobre prochain à Genève. Siriri, qui veut dire paix, est réalisé par le vaudois Manuel von Stiller, sera présenté en avant-première au Vatican le 2 septembre prochain. Il sera sur les écrans en Suisse dès le 15 septembre. Le film des 75 minutes suit les cardinals Zapalainga et l'imam Kobin Lamaya dans leur périple à travers la Centrafrique pour tenter d'apaiser les tensions et de réconcilier les clans adverses. Il propose la voie d'une véritable paix alors que la religion est instrumentalisée pour des raisons politiques. La République centrafricaine est embourbée depuis 2013 dans une guerre civile fratricide. L'imam Kobin Lamaya est décédé en novembre 2020, après les tournages du film soutenu par Caritas Internationalis. L'imam Abdoulaye a repris les flambeaux. Il sera donc aux côtés du cardinal Zapalainga pour présenter les films en Suisse du 6 au 12 septembre prochain. Le cardinal et l'imam seront notamment au cinéma Ciné-Caméra de Berne le mardi 7 septembre prochain.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.